Bonjour à tous, bienvenue dans Carrément Immo. Vous le savez, Carrément Immo, c'est l'émission sur Radio Immo dans laquelle je reçois deux acteurs qui sont complémentaires, qui ont un partenariat, qui sont en partenariat. Et aujourd'hui, on va parler de logement flexible, on va parler d'un partenariat stratégique, qui se veut stratégique en tout cas, qui a pour ambition de faire évoluer les modes d'habitation. Alors pour cette émission, je reçois Jean-Luc Porcedo, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir, vous êtes le directeur général de Nexity Transformation des Territoires et Florent Lemaire, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, directeur exécutif d'Arke Aflex. Alors bon, je représente pas, bon, je vais quand même si représenter Nexity, hein, le poids lourd de l'immobilier en France. Hein. Vous êtes le premier opérateur global du secteur, je le rappelle. Et puis vous intervenez bien sur toute la chaîne, hein, promotion, aménagement, gestion de services. Et puis, on va rappeler aussi que le groupe se veut un acteur, on va dire, engagé pour des villes durables et plus inclusives.
J'ai rien à rajouter.
Ben voilà, je suis bien votre publicité. Voilà, hein.
C'est ça, exactement. Donc oui, on va pas présenter Nexity. Premier opérateur national sur le secteur de l'immobilier, mais avec cette particularité d'être aménageur-promoteur. Qui intervient sur toute la France, dans toutes les régions, que ce soit dans les zones denses, tendues ou détendues, mais qui est surtout, et vous l'avez dit, le numéro un français de la production décarbonée. Ça fait 6 ans de suite que nous sommes labellisés premier promoteur BBCA. Et en même temps, dans une grande partie de nos métiers, cette volonté, cette capacité à produire, on va dire, ou à mettre en œuvre de la recherche appliquée sur les questions d'évolution de nos métiers, aussi bien sur les enjeux environnementaux que sur les sujets de mode constructif et de fonctionnement de nos bâtiments. On a beaucoup travaillé sur la réversibilité, en particulier avec le village olympique. On a beaucoup travaillé sur les questions environnementales, l'autre exemple... ces confluences à Lyon, on livre en ce moment un bâtiment zéro carbone, mais surtout avec une température minimale de 22 et maximale de 26, sans chauffage ni climatisation. Et puis, on va chercher des partenaires comme Arke Aflex pour réfléchir aussi à d'autres nouveaux sujets comme l'évolutibilité des logements. Donc on est à la fois dans du traditionnel, dans la recherche appliquée et on va dire dans une espèce de ligne rouge de réponse adaptée aux questions environnementales.
Alors Arke Aflex est né en 2021, jeune pousse du Crédit Mutuel Arkéa. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de votre rôle?
Bien sûr.
Donc... De vos projets?
Donc Arke Aflex, en effet, est une filiale qui a été lancée assez récemment dans le groupe Crédit Mutuel Arkéa, hein, qui est un groupe banque-assureur assez connu par ailleurs. Et on est une filiale lancée en 2021 consécutivement au rachat de brevets. Alors c'est important de le dire, c'est pas des brevets qui ont été inventés par des salariés du groupe Arkéa, mais bien par des promoteurs dont c'est le métier, et heureusement d'ailleurs, qui ont 20 ans d'expérience, qui ont fait des hôtels, qui ont fait du résidentiel, qui ont fait des bureaux et qui ont pris toutes les bonnes idées pour se dire comment on conçoit les bâtiments pour qu'ils soient évolutifs. Et donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les promoteurs comme Nexity et les bailleurs sociaux dans la conception de bâtiments évolutifs.
Alors justement, vous voulez ensemble casser les codes du logement traditionnel, on va dire, concevoir des bâtiments flexibles, évolutifs, on va voir ce que c'est. C'est vrai que nos modes de vie changent, donc forcément le logement doit suivre. Alors on va voir si c'est vraiment, si ça va vraiment faire avancer les choses ou c'est juste un effet d'annonce bien marketé, j'ai envie de dire. Pourquoi ce partenariat déjà? Vous êtes parti de quel constat? Comment ça s'est passé?
Comme tu veux, Florian. Après.
Alors, le partenariat, pour moi, il vient, le besoin d'évolutivité, il vient d'abord des villes. Et donc, je pense que c'est le point de départ de notre rencontre avec Jean-Luc sur ces sujets-là. Hein, c'est vraiment le lien avec les villes. Le besoin d'évolutivité, il s'entend à différentes échelles. Il y a plusieurs cas d'usage. On pourra rentrer dans le détail. Mais si je dois donner un premier exemple, là, tout de suite, on a parlé du village olympique. Oui. On peut parler des grands projets de réindustrialisation. Sur ces grands projets de réindustrialisation, c'est pas facile à dire, on a un besoin, par exemple, de loger des ouvriers en phase chantier, des chantiers qui peuvent durer 10 ans, 15 ans. On loge les ouvriers plutôt dans des surfaces de type T1, et puis après, le chantier est livré, et il faut pouvoir loger des salariés qui arrivent avec leur famille dans des typologies de logement familial. On reprend cette idée du village olympique. Phase JO, c'est les athlètes sont les ouvriers. Phase héritage, ce sont les salariés qui arrivent avec leur famille.
Donc ça, c'est un exemple concret en fait de logement flexible. Flexible, c'est ça. C'est comment on peut définir un logement évolutif ?
Alors, en fait, pourquoi ce partenariat d'abord ? D'abord parce qu'il y a une relation historique entre le groupe Nexity et le groupe Arkéa, quand même. Et ensuite parce que nous sommes les uns et les autres à des positions ou dans des positions différentes, mais en même temps qui se rejoignent sur la fabrique de la ville, avec nos métiers particuliers, avec nos engagements, avec notre capacité de mobilisation, on va dire en l'espèce là, nos deux groupes, et avec une certitude, c'est qu'aujourd'hui la ville, c'est un peu notre métier, pour le coup le mien, au sein du groupe Nexity, avec d'autres collègues, mais la fabrique de la ville, il y a une certitude, c'est qu'elle se fait plus toute seule. On ne peut plus faire comme on faisait il y a quelques années, où un opérateur venait décliner tout ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, on a les uns et les autres des compétences, et la fabrique de la ville, c'est une espèce de puzzle, avec plus ou moins des grosses pièces, mais c'est une espèce de puzzle, et si on veut qu'à la fin, le résultat soit, j'allais dire joli, parce que malgré tout, c'est quand même ça l'objet, la ville doit être belle. Roland Castro, il y a très longtemps, parlait du droit au beau, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit avoir une attention particulière, mais elle doit être fonctionnelle, et elle, aussi, la ville, elle doit répondre à deux clients. Pour le coup, chez Nexity, c'est une attention, encore une fois, spécifique et importante, deux clients. Le premier, ce sont les maires. Parce que c'est notre premiers, client, ouais, le sûr. Premier, c'est un maire c'est ou une maire. C'est-à-dire c'est lui qui, quoi qu'il arrive, va mettre une signature en bas d'un permis. Et sans cette signature, on peut rien faire.
Et à l'approche des élections, c'est pas évident.
Alors, c'est encore moins évident qu'avant, mais c'est un autre sujet. Le deuxième client, ce sont les hommes et les femmes qui vont habiter dans ces logements. Et les hommes et les femmes, dans la société française aujourd'hui, ils ont des parcours de vie qui sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Et on sait, effectivement, tu le disais sur les sites de réindustrialisation, mais pas simplement, à d'autres endroits aussi, on sait qu'aujourd'hui, quand on regarde les courbes de parcours de vie, on est dans une famille, on décohabite, on recrée une famille, parfois on décohabite, et on recompose, on décompose et on recompose des familles. Et donc on voit bien que le client particulier, il a aussi de plus en plus une attention en disant « aujourd'hui je cherche un logement qui est, soyons simples, F2, et puis peut-être demain j'aurai l'arrivée d'un enfant, donc il faudra que je passe à un F3 ». Il faut qu'on ait cette capacité à la fois à expérimenter, pour savoir si on est capable de répondre à ce type de demande, et en même temps de se dire « ça ne va pas être la totalité de la production, c'est un élément de plus dans le puzzle en réponse à nos clients ». Collectivités, à nos clients particuliers à la fin de, on va dire, du processus, ou parfois à des clients institutionnels, tu parlais de bailleurs sociaux à juste titre, mais surtout aussi notre manière, nous, de nous adapter à quel est notre marché, quelle est la demande. Et par ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on partage dans nos deux entreprises, le tout dans une logique de préservation de l'environnement, dans une logique de tenir, on va dire, une trajectoire environnementale. La réversibilité comme le village olympique, la flexibilité comme le partenariat Nexity-Arkéaflex, c'est aussi deux réponses sur la durée de vie d'un bâtiment. On sait que nos métiers sont gros consommateurs de carbone, on va dire ça comme ça, et de penser des étapes différentes tout au long de la vie du bâtiment, c'est réduire à la fin l'empreinte carbone. Si on doit changer de structure d'un immeuble en le démolissant, le bilan carbone, il explose. Si on a la capacité de faire évoluer la structure de l'immeuble et des logements, et ben en fait c'est autant de gains sur le bilan carbone de l'opération.
Donc c'est vraiment une évolution en fait en tant que grand acteur de l'immobilier, parce que c'est vrai que jusqu'à présent les grands acteurs avaient ont contribué, on va dire, à un peu rigidifier le marché avec des modèles standardisés qui n'arrivent pas à s'adapter aux nouveaux usages.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, en fait, on peut plus avoir cette réponse. Le marché de l'immobilier, au-delà de la crise structurelle, conjoncturelle qu'on est en train de traverser depuis quelques années maintenant, c'est aussi un secteur d'activité, c'est aussi une capacité à répondre, un secteur d'activité économique, bien sûr, mais une capacité à répondre à l'évolution de nos territoires, à l'évolution des modes de vie de nos populations. Et je ne dirais pas qu'avant, c'était rigidifié. Ce que je dirais, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir une seule réponse. Et on est convaincu chez Arkéa, chez Nexity, que notre partenariat, c'est une partie de la réponse.
Bien sûr, c'est aujourd'hui, une des solutions.
Notre responsabilité dans nos entreprises, c'est de trouver, on va dire, des réponses, pas à toutes, mais au maximum de questions qui nous sont posées par nos clients.
Alors justement, quelles innovations, on va dire, techniques ou architecturales, vous allez déployer, justement, pour rendre ces logements véritablement adaptables ? Concrètement, comment va se passer votre partenariat ?
Très bien. Avant de rentrer dans la façon dont les choses se passent et dont nous, on accompagne les promoteurs et les bailleurs sociaux, un mot pour définir la façon dont on rend les bâtiments évolutifs. Parce qu'il y a l'exemple du village olympique. Mmh. Notre solution, elle est légèrement différente et je vais expliquer en quoi. Déjà, l'évolutivité, la façon dont on l'entend, c'est à l'échelle du logement, la possibilité d'avoir des logements qui varient en taille pour s'adapter au cycle de vie des occupants, comme disait Jean-Luc Porcédo.
Donc un logement qui s'agrandit.
Qui s'agrandit ou qui diminue en taille. Mmh. Les deux sont possibles. On a vraiment un T1 qui peut devenir T2, puis T3, puis T4, puis T5 et vice-versa dans le temps. Et à l'échelle du bâtiment, c'est cette idée qu'un bâtiment puisse avoir plusieurs cycles de vie. Donc une résidence étudiante qui peut devenir résidence intergénérationnelle, puis du logement familial classique, où on a un bâtiment qui va partir sur différents cycles parce qu'il a été conçu pour être évolué. Pour que ce soit possible, alors aussi sur l'évolutivité, il y a deux sujets qui sont importants de comprendre. Quand on conçoit un bâtiment pour qu'il soit évolutif, on conçoit de telle sorte à ce que le scénario B n'est pas écrit d'avance. Sur le village olympique, le scénario B, c'est-à-dire la programmation héritage, elle était connue à l'avance. Mais c'est pas toujours possible.
Bah, c'est souvent pas possible d'ailleurs.
C'est la plupart du temps, c'est pas possible. Le besoin futur.
Ouais.
Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc nous, le scénario B, il n'est pas écrit à l'avance. On va être capable d'imaginer tout type de programmation dans le temps. Et deuxième sujet, l'évolutivité, elle se passe pas toujours à l'échelle de l'entièreté du bâtiment. Et être capable d'opérer cette évolutivité par petites touches, à l'échelle du logement, par exemple dans le cadre du logement social, par rapport à une personne qui sous-occupe un T5, bah, transformer son T5 en T2 plus T3 sans avoir à faire déménager les voisins du dessus, du dessous, à gauche, à droite, et ben, c'est aussi quelque chose qui est important.
En fait, on est dans de la dentelle.
On est dans la dentelle. On s'adapte à plein de cas d'usage différents et vraiment au cycle de vie des occupants. Et donc, cette introduction pour en venir sur notre solution. Solution, concrètement, elle est de deux aspects. L'aspect technique, donc là on a des brevets, l'évolutivité, il faut un plateau libre, donc pas de mur de refend porteur, il faut que les réseaux soient apparents, donc ils passent dans un plancher technique, qui est le cousin des plafonds techniques qu'on connaît bien dans les immeubles de bureaux, il faut un peu plus de gaines techniques, il faut un certain nombre de réservations, donc tous ces éléments-là sont les éléments qu'on indique aux promoteurs, aux bailleurs sociaux, et en lien avec les architectes et les équipes de maîtrise d'œuvre. En phase conception, c'est là que tout se joue. C'est dans la phase conception du bâtiment que vous pourrez être capable de rendre le bâtiment évolutif. Et ensuite, on accompagne, et là ça dépend du produit qui est visé, on accompagne également le cadre juridique et réglementaire. Donc par exemple, dans le logement social, l'évolutivité pose des questions sur les agréments, sur le conventionnement APL. Et donc nous, on a défini avec la DHUP un cadre qui permet de faire évoluer également les logements sociaux,
que ça s'agisse de PLI ou PLS. Parce que derrière, il y a tout le juridique, il y a plein de choses qui rentrent en compte, j'imagine.
Exactement.
Concrètement, alors chez Nexity par exemple, comment vous prévoyez d'un point de vue stratégique, on va dire, après la mise en chantier, les ventes de ces logements. Concrètement, quand est-ce qu'un particulier pourra réellement acheter ou louer un de ces logements ?
Alors là, nous avons signé ce partenariat il y a quelques jours, quelques petites semaines, on va dire, c'est tout frais. Notre boulot maintenant, Florent et à moi, c'est d'aller trouver des territoires où on va pouvoir développer. Développer soit auprès de bailleurs, soit auprès de collectivités, dans le cadre de concours, d'appels d'offres. Donc ça, c'est notre tâche dans les 6 prochains mois, pour pouvoir montrer qu'on est capable de réaliser ça. Donc on va le décliner, et tu le décrivais très bien, c'est-à-dire on va le décliner, voilà, juridiquement, comment ça se passe. C'est souvent, vous savez, l'innovation dans l'immobilier, elle percute très souvent des questions forcément juridiques et administratives. C'est le charme de la société française, on a toujours une réglementation qui nous oblige à couper les cheveux en 12. C'était vraiment le cas sur les Jeux Olympiques, mais là, il y a eu une loi d'exception. Là, on est dans un autre schéma. On a pensé, Arkea a pensé un produit avec, Florent le disait, on va dire, un cadre juridico-administratif déjà clair. Et donc maintenant, nous, c'est d'aller présenter ou d'aller chercher des réalisations. Comment on va le faire ? Aujourd'hui, on n'a pas commencé. Donc ça, c'est notre boulot. Et on peut se donner rendez-vous, on va dire, à la fin de l'année pour venir vous raconter les premières opérations qu'on vient de ou qu'on lancera à ce moment-là. Forcément, quand un client achètera, il achètera, on va dire, prenons un exemple, un F3, avec demain la possibilité d'augmenter ou de réduire. Donc là, ce sera un autre acte administratif et juridique qui fera évoluer son bien.
Par contre, j'ai du mal à voir comment il pourra l'agrandir. Si par exemple c'est un F3, en termes de mètres carrés, il y aura des mètres carrés supplémentaires. Ça veut dire qu'il y a...
Alors, la solution, elle repose sur un principe d'alvéole. Et pour le dire très simplement, une alvéole peut faire office de studio. Et si on met trois alvéoles ensemble, ça fait un T3. Mmh. Ensuite, le plateau est séquencé en alvéoles. Et donc, en combinant, recombinant les alvéoles, on crée la programmation du bâtiment.
D'accord.
Et si on imagine, dans le cadre de l'accession, un propriétaire d'un T2 qui est voisin d'un propriétaire d'un T4, il faut que se rencontrent une offre et une demande. Donc,
bah
que
oui.
le propriétaire du
ça
T4...
Ça marche en même temps, quoi.
Exactement. Soit vendeur d'une alvéole dont il n'a plus usage et que l'acquéreur souhaite agrandir son logement à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a travaillé le cadre juridique et réglementaire, on a fait en sorte que chaque alvéole soit un lot de copro indépendant. Et comme c'est un lot de copro indépendant, les tantièmes de copro rattachés à chaque alvéole permettent de faire un transfert de l'alvéole en question sans avoir à passer
en
AG. Et donc, on simplifie d'un point de vue juridique et réglementaire également l'évolutivité.
Alors, la flexibilité, c'est plus cher, on va dire ce qui est.
Alors, en coût de construction, c'est un peu plus cher, forcément. Mais alors, la réversibilité, vous dites, pardon.
Oui.
La réversibilité, si on a un exemple aujourd'hui en tête chez Nexity, c'est celui des JO, des Jeux Olympiques. Oui, le coût de construction a été largement supérieur à ce que l'on fait habituellement. Alors, la réversibilité, ça y a participé, mais tout le reste y a participé. C'est-à-dire l'excellence du rendu du village olympique, dont tout le monde a reconnu au niveau des athlètes et délégations que c'était un village olympique exceptionnel. C'est grâce à la puissance publique, mais c'est aussi et surtout grâce aux opérateurs privés qui ont construit ce village olympique. Je le disais il y a quelques jours sur les réseaux sociaux que tout le monde se félicitait. Bizarrement, on oublie que les opérateurs privés, c'est eux qui ont construit et c'est eux qui ont porté financièrement cette opération. Mais bon.
Alors justement, là, les
logements... Mais là, c'était effectivement plus cher, mais il n'y avait pas que la réversibilité. Là, c'est, et Florent le dit, je crois que c'est vraiment l'élément le plus important qu'il faut avoir en tête quand on pense à la manière dont on fabrique des bâtiments ou la ville d'aujourd'hui et de demain, c'est que tout se passe au moment de la conception. La réversibilité, l'évolutivité,
les usages.
C'est en
amont, même. Usages, oui, c'est au moment de la conception, c'est au départ, en fait.
Tout se passe au moment de la conception, des professionnels de la programmation, des architectes, enfin, voilà. C'est quelque chose que... quelque part qui est un peu nouveau quand même dans nos métiers. C'est-à-dire qu'on pensait un objet, on le posait, puis on se disait, ah, tiens, peut-être à côté, comment ça va s'étendre sur l'espace public. Alors nous, chez Nexity, transformation des territoires, c'est dans notre ADN, puisque nous sommes d'abord aménageurs. Donc la vision globale, c'est notre point de départ. Aujourd'hui, n'importe quel objet doit dépasser sa fonction initiale pour être pensée plus largement. Et c'est, voilà, Arkeaflex, Nexity, sur l'évolutibilité, c'est aussi ça. C'est-à-dire de dépasser l'objet de départ de l'objet produit et vendu. On ne peut plus faire la ville en se disant on est chacun dans nos compartiments, on est chacun dans nos métiers. Non, on voit bien que les choses doivent prendre de la hauteur, se voir et se penser plus largement.
Et alors, question, qui va porter ce coût supplémentaire ? Est-ce que c'est les collectivités ? Est-ce que c'est les acheteurs ? Je rappelle aussi qu'on est dans un contexte où la construction augmente, le prix du foncier augmente, le prix des matériaux augmente.
La construction n'augmente pas. Le coût de la construction augmente.
J'ai parlé trop vite. Le coût de la construction augmente, le foncier augmente, les matériaux, le prix des matériaux augmente. Donc là, vous l'avez dit, il y a un coût supplémentaire pour cette réversibilité. Qui va porter ce coût supplémentaire ? Vous allez grignoter votre marge, les collectivités ?
Je vais faire un début de réponse. Nos métiers sont assez simples. Il y a un prix du foncier, un prix de sortie, au milieu, un coût de construction. Au-delà de ces trois questions... Le reste n'existe pas beaucoup. Donc l'objet pour des professionnels de l'immobilier comme nous, c'est d'avoir des prix de foncier les plus accessibles, de garder toujours à l'esprit le prix de sortie pour les acquéreurs.
Ouais.
Les prix qui montent, ce n'est plus possible. Et d'avoir au milieu le coût de construction. Et on essaye de jouer sur les trois. L'évolutibilité, la réversibilité, c'est comme les enjeux environnementaux. La RE 28, ça a un coût supplémentaire.
Oui.
On peut raconter tout ce qu'on veut. On est engagé sur des trajectoires environnementales. Je crois dans la profession très fortement pour la plupart d'entre nous. Néanmoins, la RE 28, atteindre ses objectifs, ça a un coût supplémentaire. La question, c'est comment on discute avec nos prescripteurs en ayant toujours en tête que le prix de sortie ne doit pas exploser et que le prix de foncier doit être maîtrisé.
Et ça, c'est tenable, ça ?
Bah, ça fait partie de notre quotidien, je vais le dire comme ça.
Un prix du foncier. Non, mais c'est vrai, un prix final qui n'augmente pas.
En fait, je reviens à notre client de départ, c'est-à-dire à une collectivité à qui on va proposer ensemble un bâtiment qui va vivre dans la durée et donc qui va atteindre des objectifs environnementaux et qui va d'une certaine manière répondre à sa préoccupation de maire, c'est-à-dire d'avoir des logements parfois grands, parfois plus petits, ou qui vont pouvoir, entre guillemets, évoluer. Quand on va voir un bailleur social, c'est la même chose. On sait, chez les bailleurs sociaux, la problématique des personnes seules qui utilisent des grands logements et qui ne peuvent pas en sortir. Peut-être que dans un seul et même bâtiment, on peut jouer sur les superficies occupées. Et donc, c'est une partie de la réponse. Les bailleurs sociaux sont très attentifs sur les objectifs que peuvent avoir les promoteurs. Je pense, entre autres, aux objectifs environnementaux, où ils sont capables de mettre un prix supérieur à ce qu'ils font d'habitude. C'est-à-dire pour tenir leurs engagements et tenir des orientations politiques, des choix politiques, chez les bailleurs, on a parfois des charges foncières plus importantes que sur un bâtiment classique. Je remercie, je salue ces démarches-là, parce qu'en même temps, on est dans un monde où la vraie vie existe, et on ne peut pas tenir des ambitions, des objectifs en se disant « ça sera toujours moins cher ». C'est pas vrai, ça n'existe pas. Oui. Donc faire des bâtiments qui sont à la fois dans une trajectoire environnementale, qui répondent aux enjeux de la RE28, qui répondent aux enjeux de société, qui répondent aux enjeux politiques sur une commune, de dire je vais pouvoir proposer à mes administrés, électeurs, des solutions dans la durée. Tout ça, ça demande une participation de tout le monde. Et la première participation, c'est toujours le prix du foncier.
Et ce coût initial à la construction, il est aussi à mettre au regard, en face, il y a l'économie qui est réalisée le jour où on opère une transformation.
Oui, mais c'est sur le long terme.
C'est sur le long terme, complètement. Mais ça a une valeur en tant que telle.
Parce que l'acquéreur, il ne se pose pas la question du long terme, celui qui achète.
Ça dépend de l'acquéreur. Un bailleur social, on peut se dire qu'il a un intérêt.
Je parle pas des bailleurs sociaux, hein, je parle vraiment de celui qui va habiter dans le logement ou...
Là encore, on a fait une opération à Tours, 114 logements, où les clients étaient des clients particuliers et plutôt des investisseurs particuliers. Sur cette opération, on a remarqué que les clients étaient prêts à acheter un petit peu plus cher.
Mais c'était avec du Pinel ?
Il y avait du Pinel à l'époque, oui. La possibilité pour eux d'acheter deux T2 et d'en faire peut-être dans le temps un T3 et un T1 parce que le marché, l'évolution du marché fait que c'est plutôt ce type de typologie qui est demandé, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc il y a une valorisation qui est possible.
Mais là, on parle des investisseurs et puis ils ont drastiquement baissé. Hein, le nombre d'investisseurs
particulier classique, on peut se dire aussi qu'il peut avoir un intérêt à acheter évolutif. La possibilité d'augmenter la taille de son logement lui évite de déménager, tout simplement. Et donc, le déménagement a un coût est évité grâce au maintien à domicile de la famille.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Florent. Il l'a abordé tout à l'heure au début de notre échange, mais c'est extrêmement important. On a des territoires aujourd'hui en France où la puissance publique, on va dire, met le projecteur et va investir. On pense aux Gigafactory, on pense à la construction des EPR, au moins les quatre premiers. On a des territoires où on va retrouver des dynamismes parce que l'attractivité économique est souvent la locomotive du dynamisme. Dans tous ces territoires, on va avoir besoin d'abord d'ouvriers pour construire, aménager les espaces verts, l'espace public. Mais aussi, on va avoir besoin, à tel et tel endroit, d'ingénieurs, de jeunes qui sortent, on va dire, d'études universitaires sur la recherche, sur l'informatique, sur l'hydrogène, j'en passe des meilleurs, ou sur le nucléaire, qui vont venir s'installer sur des territoires. 1, 2, 3, 4, 5 ans, parce que le temps de lancer ces grands projets, c'est un temps assez long, et qui, au bout de 5 ans, on se dit, est-ce que je repars ou est-ce que je repars pas? Est-ce que là, j'ai construit un bout de ma vie ou le début de ma vie? Et je reprends ce que disait Florent. Est-ce que là, peut-être, j'avais un investissement sur un F2? Est-ce que pour moi, c'est pas plus intéressant de continuer à grandir ma propriété au même étage? Avec une alvéole supplémentaire parce que j'ai commencé à construire ma vie à tel endroit et que j'étais tout seul et on est plusieurs, enfin on est au moins deux et qu'après peut-être on sera plusieurs. Donc en fait c'est aussi ça et c'est cette appréhension, on va dire, dans nos métiers d'être en capacité de à la fois aller chercher des clients parce qu'il faut qu'on ait des clients institutionnels, mais aussi à aller sur ces endroits où on voit bien que nos réponses qui sont bordées administrativement, juridiquement, mais qui sont innovantes, sont aussi des formes de réponse à des territoires qui... J'ai en tête le territoire de Normandie, hein, où vont s'installer deux EPR. La capacité d'accueil d'un énorme chantier comme l'EPR ou les EPR et aujourd'hui pas du tout adéquate. Mmh. On pourrait avoir en tête les gigafactories qui vont s'installer en Hauts-de-France, à Dunkerque ou dans d'autres agglomérations, dans le sud-est de la France autour de Béziers. On voit bien que là, on a, et ça c'est notre métier, de dire on a des choses à proposer au territoire, et on a des choses à proposer à des clients particuliers. Vous avez raison, les dispositifs ont disparu, les exos.
Hélas.
Comme on dit, oui hélas, mais en même temps, bah, c'est à nous d'être inventifs, d'être innovants et d'aller chercher des investissements, des clients qui vont remplacer. Hélas, oui, mais en même temps, l'exonération fiscale permanente avec de l'argent à des taux zéro, ça n'existe plus, ça n'existera plus. Et puis, c'est pas un modèle économique.
C'est pas et un c'est, modèle économique. C'est pas viable, c'est
donc,
sûr.
Donc, c'est à nous aussi, et là, c'est des choses, quand on est un groupe comme Nexity, mais aussi comme Arkéa, on est capable de faire, c'est-à-dire de se réinventer pour aller chercher des parts de marché autour de l'innovation, autour de l'adaptation.
Et juste alors, les questions qui me viennent, est-ce que c'est le moment? Parce que c'est vrai qu'on, c'est vrai que c'est un beau projet, mais les promoteurs sont dans une crise profonde en ce moment. D'ailleurs, demain on aura les chiffres de la FPI. Est-ce que vous n'êtes pas en train de proposer, on va dire, une solution de rupture dans un marché qui est déjà en grande difficulté?
Moi, je pense qu'on est tous d'accord chez les confrères. On aurait dû faire ça quand tout allait bien. L'adaptation au marché. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans... j'allais dire au plus fort. Toujours un peu faire attention à ce qu'on dit. Mais on est dans une vraie crise. On n'en voit pas tout de suite la sortie. La puissance publique a mis beaucoup de temps à réagir. Je crois qu'elle commence à réagir, par exemple, sur le retour du PTZ, donc sur les petits revenus et justement sur les sujets de décohabitation et du retour de la maison individuelle. Voilà, tout ça sont des éléments d'un autre puzzle, on va dire. En même temps, c'est pas parce que c'est compliqué en ce moment qu'il faut rien faire. Au contraire, la recherche permanente à la fois s'adapter, rechercher des innovations aussi bien fonctionnelles que structurelles, c'est une nécessité si on veut survivre. Alors oui, le secteur va pas bien. Demain, on aura les chiffres. Il y a un certain nombre de nos confrères qui sont dans des situations très complexes. Après, la force de nos groupes, je le dis comme ça avec toute modestie, c'est que nous sommes des groupes solides. Nous sommes des groupes qui avons un peu de réserve, qui nous sommes des groupes qui intervenons sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes des groupes qui sont en capacité, on va dire, de porter encore des innovations, quel que soit le contexte.
Alors là, pour terminer, la prochaine étape de ce partenariat, donc vous l'avez dit, c'est quoi, à quelle échelle, à quel timing?
C'est pouvoir mettre ensemble en œuvre l'innovation, trouver la bonne opération. Jean-Luc a cité certains territoires, donc ça peut être sur ces territoires de réindustrialisation, ça peut être avec un bailleur social. Voilà, on travaille actuellement à identifier l'appel d'offres ou l'opération sur laquelle ça serait le plus opportun de le faire.
Eh bien, merci.
Rendez-vous
beaucoup
à la fin de l'année.
Voilà, je vous reviendrai sur le plateau pour les chiffres. Merci beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carrément Immo.